Il est neurologue et psychologue, il s'est fait connaître du grand public avec ses ouvrages « L'erreur de Descartes » et « Spinoza avait raison ». Antonio Damasio est de retour en France avec un nouveau livre « L'ordre étrange des choses » dans lequel il propose une hypothèse alternative autour du lien entre les capacités intellectuelles humaines et les sentiments. Selon lui, les sentiments sont à la base de toutes nos activités et productions culturelles, un rôle qui jusqu'à maintenant n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et bien c'est justement ce que fait Antonio Damasio dans ce livre qui ne manquera pas de susciter le débat et que je vous propose de découvrir dans un instant. Antonio Damasio, l'invité de La Tête au Carré, il va répondre également à vos messages et à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé d'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une méthode de pêche qui provoque la controverse.
Oui, il s'agit de la pêche électrique, on comprend bien ce que ça veut dire. Elle est interdite presque partout dans le monde et elle pourrait faire son retour en Europe. Claire Nouvian de l'association Bloom est avec nous pour en parler.
Et c'est Céline là qui réalise aujourd'hui notre Tête au Carré, préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Antonio Damasio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi pour nous présenter ce nouvel ouvrage « L'ordre étrange des choses » qui paraît chez Odile Jacob. Dans ce livre, vous placez les sentiments en première ligne dans l'histoire intellectuelle et culturelle de l'humanité. C'est une hypothèse alternative que vous défendez.
Oui, c'est vrai. Je pense que les sentiments sont vraiment les motivateurs et aussi les arbitres de tout ce qu'on peut décrire comme culture. Et normalement, on pense surtout à l'invention, à l'imagination, à l'intellectuel et non pas aux sentiments. Et mon livre, c'est sur ce sujet et sur le fait que les sentiments sont liés à quelque chose de très important, la gouvernance de la vie.
Voilà, l'homéostasie, c'est ce dont on va parler avec vous. Ce serait effectivement l'administrateur omniprésent précisément de la vie, sous toutes ses formes. Donc on va en discuter ensemble dans un instant. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est. C'est un processus très important dans le vivant. Et puis on va partager ces réflexions avec les auditeurs qui nous rejoignent et qui auront certainement des questions à vous poser. Franceinter.fr. À tout de suite, Antonio Damasio.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net. Le quotidien de l'écologie.
Voilà ce que ça fait la pêche électrique. L'avenir des poissons d'Europe qui se joue justement aujourd'hui, c'est le sujet à la une de la science dans une tribune publiée la semaine dernière dans le journal Le Monde. Des chercheurs, des politiques et des associations unissent leurs voix pour tenter de faire barrage au retour de la pêche électrique dans les eaux européennes. Interdite pourtant depuis 98, elle fait l'objet de plus en plus de dérogations depuis 10 ans, sans parler des fraudes. Et demain, un vote de la Commission européenne pourrait aboutir à une autorisation totale de cette pratique violente. Axel, on en parle aujourd'hui avec nos invités.
Oui, on est au téléphone avec Claire Nouvian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'association Bloom de défense des océans. Dans ce studio, on est aussi avec Hervé Kempf du magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Hervé, en quoi consiste exactement cette méthode de pêche dite électrique alors ?
Eh ben, comme son nom l'indique, c'est une méthode de pêche qui utilise l'électricité pour déloger les poissons qui sont au fond des mers et les faire remonter à la surface. Alors comment ça marche ? Eh bien, les filets des chaluts de fond sont équipés d'électrodes qui envoient des décharges électriques dans les sédiments. Les poissons se convulsent sous l'effet de la décharge et les courants électriques les font remonter vers le filet. C'est donc une pratique, vous l'avez dit, qui a été interdite. Elle a pourtant été expérimentée longtemps, notamment en Asie, mais vu les effets, elle a été interdite à Hong Kong et en 1990. Et en Chine en 2000. Et la situation en Europe, elle est surtout utilisée par les Pays-Bas qui, en plus, alors que la loi prescrit de limiter ces courants électriques à 15 volts, eh bien, on emploie couramment, les pêcheurs néerlandais emploient couramment des tensions comprises entre 40 et 60 volts.
Claire Nouvian, demain, un vote aura lieu au Parlement européen. Quel est l'enjeu du scrutin exactement ?
Eh bien, demain, il y a un amendement qui va être voté, qui est donc un amendement de compromis, un accord politique entre les groupes, qui ouvre la porte à l'extension de la pêche électrique partout en Europe d'ici 4 ans, si la science ne prouve pas des effets négatifs.
Quelles sont les études connues déjà sur cette pêche, sur les écosystèmes, sur les retours sur investissement, j'ai envie de dire ?
Alors, les études ont été faites par les Néerlandais, qui évidemment ont montré qu'il y avait des économies de carburant très importantes. En revanche, ils n'ont pas regardé sauf une fois les impacts de cette pêche sur la ressource. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que ça fracturait la colonne des animaux. On a des ecchymoses, on a des hémorragies internes, c'est catastrophique. Donc on a des impacts dramatiques.
Donc c'est sur cette étude en particulier que vous vous basez, la Claire Nouvian ?
Oui, et sur le retour de terrain, même la Chine a interdit la pêche électrique parce que les océans sont vidés. Les pêcheurs parlent de cimetière, en fait, quand ils passent derrière les chalutiers électriques. C'est le round-up des océans.
Alors, si les autres pays l'ont interdite, si nous l'avons interdite, comment expliquer ce retour, alors ?
Alors, c'est qu'elle est interdite, mais on a des dérogations. C'est ça la beauté de l'Europe, en fait. C'est que depuis 2007, l'Europe autorise la Commission, donne des dérogations, alors que c'est interdit depuis 1998. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour les lobbies industriels, c'est de permettre de faire sauter le verrou législatif, en fait, pour aller vers une autorisation très très vaste, en fait, européenne.
Quelle est la puissance des charges électriques qui sont envoyées dans les électrodes ?
Alors, la puissance, en fait, le règlement est écrit de telle sorte que, en fait, les paramètres électriques peuvent être adaptés par les pêcheurs parce que, par exemple, la tension électrique moyenne doit être de 15 volts, mais l'intensité en ampères n'est absolument pas définie. Donc, ils peuvent faire, ils peuvent jouer et ils peuvent ajuster à bord la façon dont ils ont envie d'augmenter ou non la puissance électrique globale.
Hervé Kempfin.
Apparemment, donc, le vote de demain dirait pendant 4 ans, on ne change pas, sauf s'il y a des études scientifiques. Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux études scientifiques qui seraient entreprises d'ici 4 ans pour donner la réponse sur la nuisance ou l'innocuité de cette pêche ?
Alors, faire confiance, oui, sauf que les chercheurs hollandais sont ceux qui investissent. Cette recherche n'intéresse pas les autres pays membres, parce qu'il n'y a pas de pêche électrique, donc vous imaginez bien à quel point la science qui peut nous parvenir peut avoir vraiment des questions qui sont biaisées, en fait, à la base. Et puis en plus, on entre dans une espèce d'armature qui va pas du tout, parce que au lieu d'interdire et ensuite de se poser la question, etc., non, nous on va dire, on autorise, et ensuite, on va essayer de voir si finalement la science est parfaitement sûre. C'est comme si on voulait savoir est-ce que électrocuter un homme fait du mal, comment. Alors décrivons, on va décrire les vaisseaux sanguins qui vont d'abord claquer en premier, ou les organes en premier, ou je sais pas quoi. Mais en fait on le sait, c'est une évidence. Donc on va investir des subventions européennes monstrueuses dans une recherche qui n'a en fait aucun intérêt, puisque on voit bien le retour de terrain, c'est vide, il n'y a plus rien, c'est un cimetière. Donc je trouve ça insensé de penser qu'à l'heure actuelle, où en effet on a 15 000 scientifiques qui nous disent la planète et les écosystèmes s'écroulent, on va devoir allouer une perte de temps monumentale pendant laquelle les chalutiers électriques vont continuer à vider les océans, sous prétexte évidemment que on va renverser la charge de la preuve sur les scientifiques, qui, ça va devenir une espèce de bataille scientifique comme le glyphosate ou les néonicotinoïdes, ça n'a aucun sens.
Est-ce que l'expérience chinoise pourrait être intéressante justement pour défendre l'arrêt de cette pêche destructrice, Claire Nouvian ?
Oui, parce qu'en fait on sait bien que c'est quand même pas le pays le plus environnemental d'un point de vue des normes. Hein. Les normes chinoises sont quand même en général plutôt basses. Et eux-mêmes ont bien vu que la productivité était en hausse massive au début pour une chute radicale très rapide. Donc c'est vraiment une vision très très court-termiste, très dangereuse pour l'ensemble du secteur.
Mmh. Claire Nouvian, oui. Est-ce que vous êtes allé voir les pêcheurs français avec l'association Bloom pour savoir ce qu'ils en pensent ?
Alors, on a vu les pêcheurs français, anglais, belges, hollandais. On voit bien que, en fait, ils sont en panique. Ils sont en panique et ils sont désespérés.
C'est-à-dire ?
Mais en fait, ils ont déjà des impacts économiques très forts et aussi très très réels, en fait, sur leur compte d'exploitation. Donc, ils sont exsangues et on voit un niveau de frustration qui se traduit déjà par une colère que j'avais jamais en fait vue dans nos 12 ans de travail sur le milieu de la pêche. J'avais jamais vu ce niveau de ressentiment, et j'ai vu des pêcheurs anglais artisans hurler littéralement sur les lobbies hollandais la semaine dernière à Londres, en les insultant, en leur disant que c'était des gens irresponsables, qu'ils étaient en train de tuer le secteur. C'est violent. Enfin, on sent bien que cette tension, elle est bien due à quelque chose.
Hervé Kempf, vous voulez vous poser une question ?
Quelle est la position de la France et peut-être d'autres pays demain à la réunion de la Commission ?
Alors, la France a une position, on va dire une position papier qui est bonne. Stéphane Travert a tweeté qu'il était contre l'interdiction. En fait, après, il a dit qu'il n'était pas pour. la pêche électrique. Donc on voit bien que ça s'est déjà un petit peu amolli, en fait, assez rapidement. Et nous, on fait une traduction politique de ce genre d'éléments de langage. Et ce qu'on voit, c'est que la France devrait engager un bras de fer politique, puisque gagner au Conseil, enfin au Conseil des ministres européens, c'est rentrer dans un rapport de force politique contre un pays, c'est faire une coalition. Et là, je pense qu'on est plutôt mal engagé parce que la France ne va pas, n'a pas encore montré les signes qu'elle voulait utiliser du capital politique pour aller dire à la Hollande, en fait, on ne va pas tolérer cette méthode de pêche. Donc je pense que ça va être un peu compliqué.
Il y a des Français qui font appel à cette pêche électrique, Claire Nouvion, ou pas ?
Comment ?
Est-ce qu'il y a des Français, des pêcheurs français qui font appel à cette pêche ?
Ah non, aucun, en France aucun, et tous les bateaux, parce qu'il y a quelques bateaux en Angleterre, en Allemagne, qui font cette pêche, qui ont cette licence, et ils sont tous propriétés de capitaux néerlandais, en fait. Il faut savoir que les Néerlandais rachètent la pêche industrielle européenne. Ils ont une vision hégémonique, en fait, de l'accès aux quotas, à la ressource, puisqu'il reste tellement peu de poissons. On a si bien vidé les océans qu'ils sont obligés d'arriver à ces artifices technologiques pour essayer de remplir leurs filets rapidement, pour éviter les dépenses de pétrole.
Absolument sidérant. Axel, pour terminer.
Mais oui, Claire, comment est-ce que vous comptez peser sur cette négociation ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre niveau auditeur, si on veut ?
Oui, alors d'ici demain, on peut signer la pétition de Bloom contre la pêche électrique. Et puis ensuite, vous savez, enfin vous vous souvenez que ce sont des processus législatifs très long, il y a un vote en plénière après, il y a un processus de trilogue entre commission, parlement et conseil, et pendant tout ce processus, on a besoin du soutien. Et en fait, l'opinion publique, si elle ne s'exprime pas avec les médias et les citoyens, on ne pèse rien, on n'a aucun, en fait, nous, on n'a aucun recours, en vérité, on n'existe pas dans les institutions, sauf quand on pèse par l'opinion publique, donc on a besoin d'une mobilisation, on a gagné avec les citoyens contre la pêche profonde, il faut qu'on recommence le même tour de force.
Bloom, vous nous donnez le site exact, Claire ?
Bloomassociation.org.
Voilà, il est en lien évidemment sur La Tête au Carré.
B-L-O-O-M.
Absolument, pour Bloom. Bravo Hervé. Et puis on retrouve toutes ces infos sur le site reporter.net. Merci Claire et bonne bataille à vous. Encore une nouvelle donc, qui arrive.
Merci à vous.
Merci Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'autopsie du cœur de Frédéric Chopin confirme qu'il est bien mort de la tuberculose, bien que son corps soit enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Le cœur du compositeur repose dans un bocal à l'église de la Sainte-Croix de Varsovie. Des chercheurs polonais ont eu l'autorisation d'étudier la relique et confirment l'hypothèse courante que le musicien sera donc mort de la tuberculose. Le rapport d'autopsie de Frédéric Chopin, établi en 1849 à Paris ayant été perdu, plusieurs théories existaient encore sur les causes de son décès, dont une suggérant qu'il était atteint de la mucoviscidose. Les premiers chiens dessinés de l'histoire portaient peut-être des laisses. Ils ont été sculptés dans une falaise de grès bordant une ancienne rivière située aujourd'hui dans le désert d'Arabie Saoudite. Et sur ces gravures, encore difficiles à dater selon les chercheurs, on voit un chasseur à l'arc accompagné de 13 chiens, chacun avec ses propres marques de poils et pour deux d'entre eux, fait exceptionnel, un trait bien marqué qui relie l'homme à son compagnon de chasse. Si comme le pensent les chercheurs, ces gravures sont vieilles de 9000 ans, alors elles seront les premières représentations connues d'hommes chassant avec leurs chiens. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette datation. Et puis pour terminer, nous vous proposons la vidéo d'un salto arrière effectué par un robot humanoïde, le robot Atlas de la société Boston Dynamics, déjà connu pour ses performances d'équilibriste, n'en finit plus de ravir les internautes. Dans une vidéo publiée ce week-end par la firme de Google, on le voit faire la démonstration de ses capacités de saut en avant, en hauteur, sur le côté. Il termine sa démonstration par un saut périlleux arrière parfaitement maîtrisé. Une prouesse technique à retrouver en vidéo sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et c'est Antonio Damasio, notre invité, dans un instant.
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les francs, comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mermidou, d'un grand bichou, d'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire chouchou, et qui flambe vite. Comme Amadou, les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous. Yo-yo ou la hobby Scooby-Doo, porte-clés, les porte-choux, portefeuille.
Et la voix de Jacques Dutronc, bien sûr, avec Les gens sont fous, les temps sont flous.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Antonio Damasio, vous êtes l'invité de l'émission cet après-midi. On est très heureux de vous accueillir à l'occasion d'un de vos passages en France. Vous êtes professeur de neurologie, de neurosciences et de psychologie et vous dirigez le Brain and Creativity Institute à l'Institut de Californie du Sud à Los Angeles. Et vous êtes donc en France pour la sortie de ce nouveau livre, L'ordre étrange des choses, qui paraît chez Olivier Jacob et qui sort même avant les États-Unis, c'est vrai?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Vous arrivez en France donc, et vous allez pouvoir discuter et débattre avec les scientifiques français hein, ouais. sur cette hypothèse que vous proposez et qui ne va pas manquer certainement de faire débat. Les auditeurs vont nous rejoindre pendant l'émission avec les messages sur franceinter.fr. Donc ce livre, on peut dire d'abord que c'est la suite de votre réflexion, hein, de votre travail depuis toujours autour de la place des émotions et des sentiments. Et là, vous avez du nouveau à nous apporter en fait, c'est ça aussi l'objet de cet ouvrage?
Oui, c'est de vraiment parler des sentiments comme motivateurs et arbitres de toute cette épopée culturelle humaine. Et aussi de dire que les sentiments ont cette puissance, cette capacité, parce qu'ils sont très très liés à la gouvernance de la vie. Et là, je parle de l'homéostasie, c'est un mot un peu compliqué, mais quand même, c'est vraiment la description de cet impératif de vie, cet impératif qui commande les cellules vivantes, même si c'est une cellule seule, à continuer à mener son métabolisme, à gouverner son antérieur, pour qu'elle peut continuer à vivre et peut se projeter dans le futur. Mmh. Et c'est quelque chose qui existe sur la planète il y a 4 milliards d'années et dans, même dans cellules sans système nerveux, sans esprit. Et c'est là que tout commence et c'est ça qui se projette dans les sentiments et vraiment peut se projeter aussi dans la culture. Ouais.
Donc vous allez là encore beaucoup plus loin dans la réhabilitation des sentiments en les mettant vraiment en première place hein, finalement dans l'histoire de la vie.
Hein. Absolument, et de dire que ce n'est pas seulement la vie intellectuelle, ce n'est pas la vie de la perception et de la mémoire et du raisonnement. Ça évidemment, quand on crée quelque chose de nouveau, quand on invente un instrument de culture comme les arts ou la musique ou la science ou la gouvernance, quand on fait ces inventions, évidemment l'intellect fait la grande partie, mais il faut ne pas oublier que c'est l'impulsion pour cette création vient des sentiments, vient de se sentir bien ou de se sentir mal, vient de la douleur ou de la la souffrance ou de l'idée du plaisir.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous le dites vous-même, hein, c'est une hypothèse alternative que vous proposez. Ce qui fait que finalement, on voit aussi votre pensée en cheminement là, hein, dans cet ouvrage.
Oui, c'est ça. Évidemment, je m'intéresse, il y a beaucoup d'années, dans toute la machinerie des émotions et des sentiments, parce que c'est évident que c'est une partie très importante de la gouvernance de la vie individuelle. Mais il y a ce côté social, c'est aussi quelque chose de très important pour gouverner la vie dans la société. Mmh. Et l'idée que c'est inimaginable pour moi, mais évidemment, c'est toujours une hypothèse, et c'est difficile d'imaginer qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait dans le monde de la culture sans avoir cette motivation et sans avoir aussi les sentiments pour nous dire comment la chose marche bien ou mal. Par exemple, je donne dans le livre l'exemple de la médecine. Quand on a commencé cette grande développement culturel qui s'appelle la médecine, il y avait évidemment un malade et un premier médecin. Et qu'est-ce que le malade avait ? Le malade avait de la douleur, avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Et il savait que la chose ne marchait pas bien parce qu'il y avait des sentiments, un sentiment de douleur, un sentiment de souffrance. Et de l'autre côté, le médecin était en train de ressentir un peu ce qui se passait dans ce premier malade et d'essayer de faire quelque chose pour résoudre le problème. Et alors, je parle de cette motivation combinée entre malade d'un côté et le physicien de l'autre côté. Mais aussi, c'était possible, par exemple, si vous êtes malade, vous savez que vous êtes bien ou que vous êtes curé, si vous avez un sentiment qui est le sentiment de réduction de la douleur. Oui. Et c'est ça, le côté arbitre des sentiments.
Oui. Et le rôle de l'homéostasie, on va en parler avec vous, évidemment, pour bien comprendre de quoi il s'agit, parce que vous posez ce concept comme central au milieu de cette réflexion. Encore un mot, justement, sur cette hypothèse, sur cette pensée en cours. Là, vous dites qu'aujourd'hui, finalement, il sera déjà peut-être nécessaire de réviser vos propres propositions. À la lumière de quoi ? Des dernières découvertes ? À la lumière des débats que ça va susciter dans la communauté scientifique ?
Oui, mais surtout, il y a la compréhension de ce qui se passe dans le monde de la biologie. Nous savons beaucoup à ce moment qu'est-ce qui se passe dans le métabolisme d'une cellule ou dans son corps tout entier, et quelles sont la relation entre le corps et le système nerveux, et quel est l'aspect des molécules chimiques dans tout ce système. Il y a de nouvelles données qui nous permettent d'avancer sur des idées nouvelles.
Ouais. Donc d'explorer, vous êtes un explorateur, Antonio Damasio.
Hein? Oui.
Ouais. Vous avez déjà des réactions de la part de la communauté scientifique sur cette proposition là que vous faites?
Oui, je,
ça discute beaucoup.
C'est quelque chose qu'on a bien parlé avec des collègues. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'années à développer. Et alors, il y a une bonne réaction, je dirais. Oui.
On va en discuter dans un instant ensemble. Un mot entre la différence, justement, entre les émotions et les sentiments, pour qu'on comprenne bien aussi de quoi on parle ensemble.
Oui, c'est quelque chose de très important. Quand on parle des émotions, on parle surtout de comportement moteur. On parle des actions. Et même le mot « émotion » nous dit quelque chose. Il y a du mouvement. Il y a une action, par exemple, une action d'une molécule, où il y a un mouvement de notre corps, un mouvement de notre visage, un mouvement dans le corps tout entier. Quand on parle de sentiments, on parle de quelque chose qui se passe dans l'esprit. C'est quelque chose qui, c'est la possibilité de voir, de percevoir ce qui se passe dans notre corps. Quand vous avez une émotion, quelque chose change dans le corps. Quand vous avez un sentiment, vous avez la possibilité de percevoir ce qui se passe dans votre corps. C'est quelque chose de radicalement différent. Et quand on ne fait pas la distinction entre émotion et sentiment, c'est une confusion terrible. Et je vais vous dire une chose de plus. Le problème, c'est parfois la langue. Parce que le langage nous donne exactement le même mot pour parler de la peur comme émotion ou de la peur comme sentiment. Alors c'est difficile, et on doit être très strict et insister sur cette différence.
Bon, on a une proposition à vous faire, Antonio Damasio, avec le dessin animé Vice Versa des studios Pixar pour comprendre ce que sont les émotions, et ça se passe dans le cerveau d'un bébé en l'occurrence.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres ? Moi je le sais. Enfin, je sais ce qui se passe dans la tête de Riley. La voilà, c'est elle. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à...
Je m'appelle Tristesse.
Oh, bonjour Tristesse. Je m'appelle Joie.
Bon, excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça. D'accord.
Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare.
Voilà une illustration des émotions, Antonio Damasio, avec ce dessin animé, La Vice Versa.
Oui, oui, le commencement des émotions avec un bébé. Oui,
c'est ça, oui. Et avec ce cerveau en forme de hall de gare où tout s'entrechoque en permanence.
Hein. Et c'est curieux, c'est que dans l'histoire de l'évolution, c'est sûr que certainement les émotions sont venues d'abord. Et après les sentiments. Et alors il y a une ordre là, et ça c'est une ordre pas étrange du tout. C'est très, très facile à comprendre. Quand vous avez par exemple une bactérie ou un être très très simple, sans système nerveux, sans esprit, il y a la possibilité de réagir. Il y a une possibilité d'action, mais il n'y a pas la possibilité de regarder ce qui se passe dans ce corps. Mmh. Et alors, on doit attendre la possibilité de système nerveux et la possibilité de créer l'esprit pour qu'on est capable de faire ce que nous faisons facilement. C'est regarder ce qui se passe autour de nous, mais surtout ce qui se passe dans notre propre vie.
Et d'être conscient de nous-mêmes avec la conscience aussi qui va...
Oui, parce que regardez, c'est impossible de concevoir la conscience sans cette capacité de voir l'extérieur et de voir l'intérieur. Ouais. C'est la vue de l'intérieur qui va vous donner la possibilité d'avoir un sujet, d'être subjectif.
Ouais. C'est plutôt le propre de l'humain, ça, quand même, non ? Cette conscience de se percevoir comme ça ?
Oui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'autres créatures qui sont capables de se percevoir, mais pas évidemment au niveau de
sophistication.
Non, c'est une question de quantité.
Antonio Damasio, vous êtes l'invité de la Tête au Carré. On vous retrouve dans un instant.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Somehow realize what you're not to do. I don't
about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Wonderwall avec Oasis et l'un des frères Gallagher, Noël Gallagher, qui sera ce soir en concert sur France Inter en direct à partir de 21h au studio 105 pour les chansons de son nouvel album. Antonio Damasio, l'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments, la fabrique de la culture, c'est aux éditions du Jacob. Éclairez-nous d'abord sur le titre, tiens, de votre ouvrage, Antonio Damasio. Qu'est-ce que ça nous dit exactement, alors, sur cette discussion qu'on a autour des origines de la vie aussi, hein?
Oui, alors le titre est, pour moi, est très clair, et ça est devenu très clair pour, parce que je pensais surtout à la vie des bactéries.
Ouais.
Quand vous imaginez la vie des bactéries, ce sont des êtres très simples qui existent presque 4 milliards d'années sur la planète, et sont des êtres qui n'ont pas de système nerveux, évidemment n'ont pas d'esprit, sont très simples, mais il y a de l'homéostasie, il y a du contrôle de cette vie, il y a un métabolisme très compliqué.
Et une organisation aussi.
Une organisation très complexe, il y a une organisation sociale. Et dans cette organisation sociale, on entrevoit déjà des attitudes, entre guillemets, qui sont très proches aux attitudes culturelles et aux mécanismes et aux stratégies culturelles qui nous connaissons comme des attitudes humaines. Par exemple, s'il y a des bactéries qui doivent travailler ensemble pour se défendre d'une attaque, par exemple, une attaque d'un antibiotique, ces bactéries se connaissent. Parce qu'il peut, la reconnaissance s'est faite avec des molécules dans la surface de la membrane. Il y a des bactéries qui sont de la famille, il y a des bactéries qui ne sont pas de la famille.
Donc elles se regroupent, celles qui se connaissent pour faire la guerre contre l'antibiotique, par exemple.
Oui, mais il y a quelque chose de très complexe et très beau. C'est que si elles trouvent qu'il y a des bactéries, s'il y a des membres du groupe qui ne travaillent pas énormément et qui ne travaillent pas pour aider l'effort de défense, elles vont les éviter et ils vont travailler avec des bactéries qui ne font pas du groupe, qui ne sont pas de la famille. Alors, c'est là une attitude de critique morale, de nouveau entre guillemets.
On va loin là, hein, quand même.
On va très loin, ouais. On va très loin. Et évidemment, je ne veux pas dire que les bactéries ont un sens moral et ont un sens de critique éthique. Ça serait ridicule. Mais je veux dire quelque chose de différent et d'important, c'est que les stratégies fondamentales d'une culture, dans un réseau social par exemple, commencent déjà avec les premières manifestations de la vie. Et c'est ça l'idée de l'ordre étrange.
Ouais.
C'est étrange, ce n'est pas naturel dans notre pensée humaine très, très chargée de cette idée que nous
très
sommes.
Très auto-centrée aussi. Hein.
Auto-centrée et très pleine d'exceptionnalisme humain. Alors, il y a des choses qui sont très importantes, très marquante et très capable de construire une culture qui ont fait son début il y a très longtemps, avant qu'il y avait des esprits, avant qu'il y avait une intention déclarée d'une personne qui pense.
Avant même les systèmes nerveux, hein,
absolument,
comme vous le rappeliez.
Regardez, une des idées les plus importantes dans ce livre, c'est que normalement, nous pensions que l'esprit s'est fabriqué par le système nerveux seulement. Et je dis que ça, c'est faux. Ouais. Je pense que la pensée, notre grand esprit, c'est fabriqué en coopération interactive entre le système nerveux et le corps, entre les parties non neurales du système de notre organisme.
Donc c'est aussi cette grande histoire de l'évolution là, que vous racontez, Antonio Damasio, hein, avec le processus aussi de sélection naturelle.
Absolument.
Et dont l'homéostasie fait partie au premier chef, là aussi.
C'est,
hein.
c'est vraiment l'impératif dominant. Sans ce sens indomptable de maintenir la vie et de la continuer dans le futur, il ne fait pas de sens de parler de sélection naturelle.
Ouais.
Et c'est une histoire qui est la base de ce qui se passe aujourd'hui avec culture et avec sélection culturelle. Parce qu'il y a, dans notre vie, il y a la sélection génétique et il y a aussi une sélection purement culturelle qui est elle-même décidée par les sentiments. Parce que les choses qui marchent continuent et les choses qui ne marchent pas sont éliminées.
Ouais, mais les sentiments, il n'y en a pas chez les bactéries.
Non.
On parle bien de l'homme, là, pour le coup.
Absolument. Mais les bactéries ont des réactions émotionnelles. Mm-hmm. Les bactéries peuvent coopérer, peuvent être en conflit avec des autres et elles peuvent réagir émotionnellement, entre guillemets, parce que, par exemple, si tout marche bien, elles peuvent se relâcher et elles s'épanouissent. Mmh. Et s'il y a du stress, elles se retranchent sur eux-mêmes. Et alors, cette idée très, très importante de l'émotion positive et négative sont déjà présents dans individu avec une cellule seulement.
Alors justement, il y a des questions d'auditeurs à ce sujet. Patrice nous dit, malheureusement, les émotions prennent parfois le pas sur la raison. L'immédiateté, la réaction instinctive peuvent alors avoir des incidences dramatiques sur l'individu et la collectivité.
Oui, c'est vrai, mais il faut penser que quelquefois, quand les gens disent bon, c'est toute la faute de l'irrationnel, mm-hmm. c'est toute la faute des émotions qui ont beaucoup d'importance dans notre vie culturelle, sociale. Je dis attention, il y a des émotions positives et des émotions négatives. Quand nous disons que la vie, par exemple la vie politique à ce moment, est dominée par la rage, la colère, le confrontement, alors c'est des émotions négatives. C'est exactement des émotions qui ont été très importantes dans l'évolution, mais qu'à ce moment, dans une société culturelle avancée, n'ont pas tellement de place. C'est bon d'avoir de la peur, c'est bon d'avoir de la rage pour nous défendre, évidemment, et si nous étions dans la forêt il y a 10 000 ans, ça c'est très...
Très utile.
Très utile, mais à ce moment, c'est moins utile. Et il y a aussi, il faut penser à des émotions positives, comme par exemple le soin pour les autres, la compassion, l'admiration, l'empathie, l'admiration pour les grandes idées, l'admiration pour les grandes inventions. C'est tout un monde émotionnel et avec ses sentiments respectifs et qui doivent en fait dominer notre culture. Évidemment, on ne peut pas faire une culture seulement avec des sentiments positifs, mais à ce moment, les choses sont un peu inversées. C'est les négatifs qui dominent notre vie, parce que nous traversons une période particulièrement mauvaise de l'état social et politique.
Et ce sont donc ces sentiments qui donnent naissance à la créativité, hein, chez l'humain par exemple. On va écouter d'ailleurs, pour l'illustrer, la plus vieille partition du monde qui avait été reconstituée. Elle était d'abord gravée sur une tablette en argile, elle a été découverte en Syrie, datée de 3400 ans, et après un travail de recherche dans les années 50, elle a été adaptée et mise en musique pour cette mélodie antique que je vous propose d'écouter, Antonio Damasio. Donc il y a 3400 ans, voilà, on écrivait déjà des partitions sur des tablettes en argile, Antonio Damasio. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans le processus humain, justement.
Oui, c'est très bon que vous parliez de la musique parce que c'est une des premières manifestations culturelles. Je suis presque sûr que la musique a commencé même avant...
Avec les premiers instruments. Hein.
Bon, c'est certainement avant le langage verbal, comme ouais. notre langage, mm-hmm. Et peut-être avant ou en même temps que les arts visuels, et a une relation avec le corps, une relation avec les émotions et les sentiments qui est absolument centrale. Et on peut imaginer, par exemple, quand vous voyez dans les
Les grottes de Lascaux. Ouais.
Quand vous voyez des flûtes avec cinq, comment dit-on, holes.
Avec
cinq trous.
Sans trous, oui, absolument.
Alors, c'est d'une complexité musicale mmh. énorme. Et on peut imaginer que déjà, les gens utilisaient un instrument qu'il avait dans soi, la voix, mm-hmm. la voix humaine qui est peut-être utilisée pour chanter. Il avait un autre instrument dans son propre corps, c'est le tambour de notre poitrine.
En frappant la main sur la poitrine.
Oui, ouais. voilà. Et on peut imaginer, avec un peu de créativité, on peut imaginer utiliser la musique pour la séduction. Voilà, c'est quelque chose d'important dans notre vie, pour consoler les autres, mais aussi pour marcher les gens pour la guerre. Ouais. S'il y avait en tribu, en groupe, qui était en guerre avec un autre, c'est bon d'avoir des tambours et c'est bon d'avoir une marche militaire qui provoque cette danse d'attaque.
Et qui entraîne les hommes.
Et ouais. voilà, et voilà des mmh. choses bonnes et des choses mauvaises exactement au même moment, mais c'est... Le lien avec les émotions et les sentiments est absolument clair. On ne peut pas imaginer la musique sans ces liens.
Et les sentiments, la culture et l'homéostasie, donc ouais. ce triptyque que ouais. vous proposez, Antonio Damasio, vous revenez dans un instant, vous êtes l'invité de La Tête au Carré.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La villa doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent, sans effort, sans mouvement, sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles, et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles. Observe de loin l'Afrique.
Et retourner à la mer, la voix de Raphaël.
La tête au carré. Sur France Inter.
Antonio Damasio, l'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments, la fabrique de la culture. Donc c'est chez Odile Jacob avec des réactions des auditeurs. Il y a Catherine qui nous dit ceci. Est-ce qu'à la base, il n'y a pas en premier lieu les sensations, les sentiments ne sont-ils pas l'aspect métacognitif d'abord des émotions? Et puis Laurent qui vous écoute nous dit ceci. J'ai l'impression que Monsieur Damasio parle en fait de sensations, ce qui n'est pas la même chose que les sentiments, même si c'est le même mot feelings qui est utilisé en anglais. Alors, est-ce qu'on se comprend bien?
Bon, il y a c'est bonne question. Bon commentaire. Les sensations est évidemment le commencement de tout ça, mais les sentiments proprement sont des sensations qui portent sur ce qui se passe dans notre organisme. Voilà, la différence c'est que, par exemple, une bactérie a évidemment quelque chose de sensation. On dit que les bactéries, comme toutes ces petites créatures, ont, en anglais, on dit « sense and respond ». C'est la capacité de sentir, entre guillemets, et répondre. Mais c'est un sentir très simple et c'est surtout en sentir ce qui se passe au dehors. Quand on parle des sentiments, on parle de quelque chose, c'est un aspect de perception de ce qui se passe dans le corps qui est vivant. Et c'est, il y a beaucoup d'aspects dans ce corps. Et parce que le corps peuvent marcher bien ou non, et il y a des aspects de, il y a une valence positive ou négative. On peut avoir du bien-être, ou on peut avoir le sens de malaise et de maladie. Alors, sentiment doit être utilisé seulement pour décrire les aspects de la gouvernance du corps, de la gouvernance de l'intérieur, et non pas pour décrire, par exemple, le fait que à ce moment, je vous regarde, et je regarde le mur où il est écrit France Inter. Ça, c'est des perceptions et des sensations visuelles, comme il y a des sensations auditives. C'est quand les sensations sont accompagnées par cette compagnie inévitable de l'état de l'intérieur, qu'on parle bien des sentiments. Et c'est deux choses parallèles. C'est le monde de la perception, en général, et le monde de ce qui se passe à l'intérieur d'un corps vivant, qui accompagne inévitablement ce qui se passe au dehors.
Antonio Damasio, Ludovic nous écrit, il écoutait le sujet tout à l'heure sur le retour de la pêche électrique, il dit voilà, nous voyons bien à quel point nous ne sommes que très peu concernés par la notion d'homéostasie. Si nous agissions comme des bactéries, nous n'en serions pas à ce niveau de destruction programmée de l'espèce. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vous voyais réagir justement sur le sujet de la pêche électrique là tout à l'heure.
Bon, il y a deux côtés de là. D'abord sur la pêche électrique, c'est pour moi c'est incroyable d'entendre toute cette histoire. Parce que dans les poissons, on a tout le droit d'imaginer qu'ils ont de la conscience et ils ont des sentiments. Et alors l'idée qu'on va provoquer de la douleur dans des créatures vivantes est horrible. Ça, c'est un autre problème. Si on est très semblé, si on a seulement des émotions comme dans les bactéries, on a un monde très, très restreint et le monde comme nous l'avons dans notre esprit et un monde avec la culture donne la possibilité de choses très belles et des choses horribles. C'est vrai que avec toute notre imagination, nous sommes capables d'imaginer des choses merveilleuses et nous sommes aussi capables d'imaginer de la guerre et d'imaginer de armes de destruction massive. Alors il faut accepter le fait que le résultat de notre complexité, c'est d'avoir des choses bonnes et des choses mauvaises, mais il est possible de décider entre les deux d'une forme intellectuelle, mais qui respecte la vie, qui respecte cette chose principale qui vient du fait que nous avons une vie, que cette vie est vulnérable et qu'il y a la possibilité d'un côté de la souffrance et de l'autre côté l'imagination du plaisir.
Alors pour terminer, Antonio Damasio, encore un mot sur l'homéostasie, parce qu'il y a ce triptyque, hein, sentiment, culture et tout ça porté par le socle de l'homéostasie. C'est Claude Bernard, vous le rappelez, au 19e, qui a proposé cette notion. On l'a comprise de différentes façons. La définition communément admise, c'est quoi? C'est la régulation finalement des choses?
Oui, c'est la régulation, mais il y a quelque chose de très important qui est toujours oublié et n'aime pas parler du tout. C'est que homéostasie n'est pas seulement l'équilibre de la vie. Si on avait un équilibre parfait dans une cellule ou dans un corps avec des millions de cellules, ça serait la mort. Parce que l'équilibre, au point de vue thermodynamique, c'est la mort.
C'est entre la vie et la mort, finalement. Oui.
Hein. Alors, ce qui se passe dans l'homéostasie, c'est qu'il y a une régulation qui est avantageuse pour la vie, pour que la vie continue. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que toutes les cellules ont de l'énergie dans surplus. Il y a plus d'énergie que nécessaire pour le moment. Alors, ce n'est pas la question de faire l'équilibre, la balance. C'est une question de faire l'équilibre et d'avoir un peu plus pour que on peut continuer pour le futur. Alors, homéostasie n'est pas équilibre seulement. Mm-hmm. C'est une préparation pour le futur, qui est un futur dans la progénie ou un futur dans les prochains moments de votre vie.
Ouais. Et c'est à la base de la sélection naturelle aussi ?
Oui, absolument.
Dans ce processus évolutif.
C'est pas possible de concevoir tout le processus évolutif s'il n'y avait pas cet impératif dominant de l'homéostasie.
Antonio Damasio, voilà, c'est donc cette hypothèse alternative hein, que vous proposez et qui n'a pas fini d'être discutée. Finalement, c'est un vrai changement aussi de paradigme, à la fois dans le monde vivant, dans la biologie, et puis dans la pensée, dans le psychisme, dans la cognition.
Si vous le disiez, c'est vrai.
Ah bon, vous croyez vraiment? Vous me faites plaisir, très bien. En tout cas, je suis pas le seul à le penser. Et c'est ce nouvel ouvrage qui arrive donc chez Odile Jacob, qui paraît donc en France avant les États-Unis, parce qu'il va sortir en Amérique seulement en février prochain. Donc on peut le lire en français, on a cette chance. Ça s'appelle « L'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments et la fabrique de la culture ». Merci beaucoup Antonio Damasio.
Merci.
D'être venu cet après-midi dans la tête au carré. Et merci aux auditeurs qui ont été nombreux à vous poser des questions sur le site de l'émission. À très bientôt.